France Inter.
Il est 13h sur France Inter. Et c'est l'heure du journal d'Éric Delvaux. Bonjour Éric.
Bonjour Alexandra Ben Saïd et bienvenue à tous. À la une de ce 13h. Les Russes ont-ils délibérément visé l'immeuble du gouvernement ukrainien la nuit dernière? Immeuble en feu après l'attaque de drones et de missiles, la plus massive depuis le début du conflit. Nous serons en direct de Kiev en début de journal. Au Japon, voilà une démission surprise, démission comme un coup de tonnerre ce matin, celle du Premier ministre. Moins d'un an après son arrivée, Shigeru Ishiba était en sursis. Elle a obtenu hier soir à Venise le Lion d'argent pour son film The Voice of In Rajab, et ça a été même la sensation du Festival de Venise. La réalisatrice Kauter Benania sera l'invitée de ce journal. Ne manquez pas ce rendez-vous. À la veille de la chute probable du gouvernement Bayrou, Marine Le Pen confirme ce matin que son groupe ne votera pas la confiance envers le Premier ministre. Un piteux chantage, dit-elle, vous l'entendrez. Le PSG, privé de ses deux joueurs blessés vendredi en jouant en équipe de France, eh bien, ce matin, le club parisien réclame un nouveau protocole médical avec l'équipe de France. Et puis le temps de ce dimanche, Céline Dacosta, il va faire bien chaud cet après-midi.
Oui, le plein été se poursuit aujourd'hui avec 27 à 33 degrés attendus de nord au sud.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes. En Ukraine donc, depuis le début du conflit en 2022, jamais les Russes n'avaient envoyé autant de drones et de missiles que la nuit dernière. Au moins 805 drones, 13 missiles, la plupart des drones ont été neutralisés. Mais il y a tout de même de sérieux dégâts, au moins 5 morts, dont 2 à Kiev. Le siège du gouvernement ukrainien a été incendié. Bonjour Bastien Bory.
Bonjour à vous.
Vous êtes en direct de Kiev, les bâtiments du pouvoir ukrainien touchés. Est-ce que ce sont des dégâts collatéraux ou les infrastructures du gouvernement étaient-elles ciblées?
Bon, d'abord, la façade et la toiture du bâtiment portent en effet assez nettement la marque de ce raid aérien. Cela dit, la signature n'est pas encore lisible. Il faut attendre les conclusions de l'enquête, mais en observant les dégâts et le point d'impact que j'ai pu voir ce matin en m'y rendant, difficile d'imaginer une erreur de la part de l'armée russe, tant l'intensité de l'incendie a été grande lors de cette nuit qui a vu autant de symboles touchés que de vies perdues. À 3h du matin, les premières sirènes d'alerte ont retenti, jetant des milliers de personnes à la hâte dans les abris, les bouches de métro, les sous-sols des immeubles. Dans le centre-ville, les dégâts humains sont limités, mais plus on s'en éloigne, moins les quartiers résidentiels sont pourvus en dispositifs de protection. Et dans l'est de Kiev, un drone bombardier Shahed a fauché le 6e étage d'un immeuble, emportant avec lui la vie d'un enfant d'un an. Sa mère a été projetée dans la rue où elle a succombé, elle aussi, à ses blessures.
Bastien, avec ces attaques russes toujours plus massives, que deviennent les hypothétiques discussions pour trouver une issue au conflit?
Bon, Vladimir Poutine baissera les armes vraisemblablement soit quand son but de guerre sera rempli, soit quand un négociateur lui fera miroiter une alternative au moins aussi satisfaisante. Or, le principal but de guerre russe demeure la chute de Volodymyr Zelensky. Les gains territoriaux et les frappes stratégiques comme celle de ce matin ne sont qu'un moyen pour arriver à cette fin. Maintenant, est-ce que cette stratégie de grignotage presque psychologique fonctionne? Autrement dit, est-ce que les Ukrainiens doutent et se retournent contre leur président? Ce que l'on peut dire, c'est que la popularité de Volodymyr Zelensky est en baisse, lente, mais en baisse graduelle depuis 3 ans.
Bastien Bory, en direct de Kiev, et après cette plus grande attaque aérienne lancée par Moscou, le président français s'est longuement entretenu ce matin avec Volodymyr Zelensky. Emmanuel Macron estime que la Russie s'enferme toujours un peu plus dans la logique de la guerre et de la terreur. Au Japon, voilà un coup de tonnerre politique. C'est le Premier ministre Shigeru Ishiba qui vient de démissionner. Il n'avait plus le soutien de son propre camp. Karine Nishimura, vous êtes notre correspondante à Tokyo. Le Premier ministre n'avait plus non plus de majorité dans les deux chambres du Parlement.
C'est en ces termes que le Premier ministre Shigeru Ishiba a annoncé soudainement son départ.
J'ai décidé de quitter mon poste de président du Parti libéral-démocrate.
En abandonnant la présidence du PLD, Parti libéral-démocrate, Shigeru Ishiba renonce de fait à ses fonctions de chef du gouvernement moins d'un an après sa nomination. La surprise n'est pas totale puisque puisque depuis des semaines, Ishiba est la cible de clans de son propre parti. Ses adversaires s'apprêtaient à le démettre lors d'une réunion décisive lundi pour avancer de 2 ans la désignation d'un nouveau chef de parti. Le Premier ministre a préféré anticiper cette éviction déguisée. Les détracteurs d'Ishiba lui reprochent d'avoir échoué à conserver une majorité pour la coalition au pouvoir dans les deux chambres du Parlement. Les électeurs ont en réalité surtout sanctionné les parlementaires qui ont trempé dans des scandales plus qu'Ishiba lui-même, dont le soutien au contraire augmentait. Il part alors que le Japon n'a résolu aucune des crises qu'il traverse. Il souffre des effets du vieillissement, d'une économie mal en point, des conséquences de la politique de Donald Trump ou encore des répercussions des conflits internationaux. Mais au PLD, les guerres de clans l'emportent sur tout le reste. Tokyo, Karine Nishimura, France Inter.
La Mostra de Venise a récompensé hier soir le long métrage de l'américain Jim Jarmusch, Father, Mother, Sister, Brother, distingué donc d'un Lion d'or. Quant au film qui a créé l'événement de la Mostra, The Voice of In Rajab, de la réalisatrice tunisienne Kawther Benania, ce film a reçu le Lion d'argent, une fiction qui utilise des documents sonores réels, tirés donc d'une histoire vraie. C'est le calvaire de cette fillette palestinienne tuée par l'armée israélienne l'an dernier à Gaza. Et nous venons de joindre la réalisatrice Kawther Benania. Bonjour.
Bonjour.
Votre film a donc fait sensation mercredi lors de la projection avec près de 24 minutes d'ovation, des larmes également dans la salle. On a même cru, et vous aussi je le suppose, que ce film obtiendrait le Lion d'or. Avez-vous été un peu déçu de cette deuxième place hier soir ?
Pas du tout, je suis très contente parce que pour moi l'essentiel c'est l'accueil et comme vous l'avez mentionné, l'accueil était formidable, c'était au-delà de mes espérances, je ne m'attendais pas à ce que les gens applaudissent jusqu'au moment où on nous demande de sortir de la salle parce qu'il y avait un film derrière, le public est conquis, la presse est unanime, j'ai le deuxième prix à la Mostra de Venise, donc je ne suis pas du tout déçue, au contraire.
Votre film retrace donc les dernières heures de cette fillette palestinienne In Rajab, vous êtes appuyé pour ce film sur les 3 heures d'enregistrement qu'elle a passé au téléphone avec le croissant rouge avant de sombrer. D'ailleurs, comment avez-vous convaincu la famille de vous autoriser à utiliser le son de cet appel d'urgence ?
J'ai appelé la maman de Hint. Vous pouvez imaginer que pour elle, perdre un enfant, pour une mère, c'est quelque chose d'extrêmement tragique, mais c'est une femme formidable. Elle représente la résilience en personne et elle m'a dit « je veux pas que ma fille soit oubliée sous les décombres des informations et des cadavres ». Et donc, elle était non seulement donné son accord, mais elle était partie intégrante du film, puisqu'elle est dans le film, on la voit à la fin aussi.
La voix de In Rajab, ce n'est pas seulement la voix de la fillette, hein, vous disiez en recevant le prix hier soir que c'est aussi la voix de tout un peuple. Votre long métrage est-il un film politique aussi ?
Oui, c'est un film politique et pour moi, le cinéma est politique avant tout, quel que soit le sujet. Voilà, le cinéma, c'est un choix, c'est un regard. Le cinéma, c'est un sujet, mais pas que. C'est une écriture, c'est une forme et tout ça, c'est politique.
Et votre film a été retenu pour représenter la Tunisie, vous êtes tunisienne, représenter la Tunisie aux Oscars, cette course aux Oscars dans l'Amérique de Donald Trump. Comment l'envisagez-vous ?
Je n'ai aucune idée, on va voir comment les choses vont se passer, mais moi, mon but premier, c'est que le film soit vu et revu partout dans le monde et j'espère qu'il sera aussi distribué aux États-Unis et j'espère que cette course, entre guillemets, aux Oscars permettra une visibilité au film.
Dans cette course aux Oscars, vous avez déjà le soutien de plusieurs acteurs et réalisateurs américains, Brad Pitt, Jonathan Glazer, réalisateur lui-même oscarisé hein, pour La Zone d'intérêt. Ce sont des soutiens qui comptent pour vous aujourd'hui ?
Absolument. C'est des soutiens qui comptent énormément. Ils ont été très touchés par le film. Ils ont voulu mettre leur nom et soutenir. Et encore une fois, tout ce qui permet de donner une visibilité au film et de conquérir le public, voilà, ces noms, ça en fait partie.
Eh bien merci Kauter Benania, et puis bravo donc pour ce Lion d'argent qui a récompensé votre film The Voice of Indrajab hier soir à la Mostra de Venise. Merci beaucoup et bonne journée.
Merci à vous.
France Inter, le journal de 13h. Éric Delvaux.
L'actualité en France. À présent, nous sommes à la veille de la probable chute du gouvernement Bayrou et Marine Le Pen a fait sa rentrée politique ce matin. C'était dans son fief, Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais. Bonjour, Lise Roosevelt.
Bonjour.
Vous êtes en direct d'Hénin-Beaumont. La présidente du groupe RN à l'Assemblée confirme d'abord que son groupe ne votera pas la confiance demain. C'est d'ailleurs une échéance qu'elle compare à un piteux chantage. Très offensive hein, ce matin, Marine Le Pen, elle réclame encore une fois la dissolution.
Oui, au pupitre, devant une grande affiche avec ce slogan « Contre vents et marées, avec vous », Marine Le Pen se montre combative et envoie un message à François Bayrou.
Il a cru que nous ne prendrions pas le risque d'une dissolution. Écoutez-moi bien, je suis prête à sacrifier tous les mandats de la terre pour vous empêcher de massacrer les Français avec vos politiques absurdes et vos pseudo-économies injustes et toxiques.
La chef de file des députés RN, malgré sa condamnation à 5 ans d'inéligibilité avec application immédiate, est déjà prête à partir en campagne. Elle le martèle, le RN est la seule solution à l'instabilité politique.
Le Rassemblement National, je le répète encore, est plus que jamais prêt à assumer cette immense et haute responsabilité. Un an d'avance pour l'alternance, voilà une immense chance pour la France.
Et si Emmanuel Macron nommait encore un Premier ministre du socle commun, Marine Le Pen menace déjà de le faire tomber.
Nous resterons inlassablement les avocats des intérêts de la France et des Français. Sans prise en compte de ses aspirations, il sera lui aussi censuré.
Un moyen de faire pression sur Emmanuel Macron pour obtenir une dissolution. Comme pour résumer, elle conclut « Gardons les yeux fixés sur l'avenir et sur nos immenses possibilités ».
Lise Roosevelt en direct de Hénin-Beaumont avec les moyens techniques de Fabien Gosset. Au sein du Parti Les Républicains, le patron des députés, Laurent Wauquiez, préfère donner la liberté de vote à la cinquantaine de membres de son groupe pour accorder ou non demain la confiance à François Bayrou. C'est une position de Laurent Wauquiez qui est en contradiction avec le patron du parti, Bruno Retailleau, qui préfère lui appeler à soutenir demain le Premier ministre. Quant au Premier ministre François Bayrou, eh bien, il a terminé il y a quelques minutes son marathon médiatique. C'était à la mi-journée sur le média en ligne Brut. Il estime qu'il existe en France des forces politiques en guerre civile les unes avec les autres et qui se sont mises ensemble, dit-il, pour abattre le gouvernement. C'est un peu la feuille de route énergétique de la France. Le décret d'application de la programmation pluriannuelle de l'énergie ne sera sans doute pas publié avant la chute probable du gouvernement Bayrou. C'est ce que dit ce matin le ministre de l'Industrie et de l'Énergie, Marc Ferracci. Cette feuille de route est pourtant très attendue par les acteurs du secteur de l'énergie, rappelle le ministre.
Cette programmation pluriannuelle de l'énergie, elle est absolument nécessaire à la filière nucléaire. L'actuel décret, celui qui est en vigueur, prévoit de fermer 14 réacteurs. Or, nous voulons en ouvrir, en construire de nouveaux. Concrètement, cette PPE, elle trace un cap pour la programmation pluriannuelle jusqu'en 2035.
Cette programmation sur l'énergie, vous ne l'aurez pas publiée donc avant votre départ, probablement.
C'est effectivement une hypothèse qui est probable aujourd'hui.
Donc elle risque peut-être d'être enterrée.
Non, pas du tout. Vous savez, ce décret, il a été travaillé depuis 4 ans et il devait être publié il y a déjà 2 ans.
En tout cas, d'être ajourné encore.
Je suis un Premier ministre qui ne lâche rien, qui ne lâche rien, excusez-moi.
Nouveau candidat.
Et je pense que le Premier ministre qui peut-être prendra la suite de François Bayrou aura besoin de donner une trajectoire pluriannuelle de l'énergie au pays.
Voilà, je rappelle que ce décret avait suscité des critiques de la part du Rassemblement National, notamment sur la place accordée aux éoliennes. La date est cochée dans tous les agendas, celui du ministre de l'Intérieur comme ceux de certains lycéens. Ce sera mercredi prochain. Le mouvement Bloquons Tout ambitionne de paralyser toute la France. Quelques syndicats, CGT, Sudrail emboîteront le pas, les mouvements citoyens également, et aussi une partie de la jeunesse. Exemple à Nîmes où quelques lycéens et étudiants préparent cette journée du 10 septembre. Ils ont entre 14 et 21 ans. Ils se sont réunis au café pour prévoir le blocage du lycée Alphonse Daudet de Nîmes et autres sites. Reportage anime de Morgane Guillaumard.
Ce groupe de jeunes se retrouve autour d'un café. Ils débattent d'une manière presque scolaire. Chacun lève la main avant de prendre la parole. Florian, 17 ans, en terminale option cinéma au lycée Philippe Lamour à Nîmes, tient à dénoncer les baisses de subventions de la région Occitanie.
En cinéma, on a l'habitude de partir en festival, donc pour découvrir des films qui sont sur le point de sortir, pour parler avec des réalisateurs, bah, tout ça c'est en danger.
Pour ces étudiants, la mobilisation du 10 septembre doit rester apartisane. Ils refusent de voir une organisation ou un syndicat s'accaparer le combat, raison pour laquelle Émile parle en son nom propre, même s'il est membre du mouvement national lycéen dans le Gard.
Ils ont en fait besoin d'un électrochoc pour comprendre qu'il y a un ras-le-bol général. Des coupures budgétaires, des toits qui s'effondrent dans les lycées, les profs qui ont de plus en plus de mal.
Ces adolescents s'intéressent déjà à la politique. La plus jeune, Louane, a 14 ans, elle est en quatrième.
Dans la vie de tous les jours, je mange du poulet ou des trucs comme ça, c'est politique. Et moi, je m'en suis rendu compte. J'ai vu Mélenchon en premier, j'ai vu Mélenchon parler, ça m'a donné envie de m'intéresser à la politique, c'est pour ça.
Cette jeune fille porte un t-shirt enfantin avec un monstre orange et vert qui fait la grimace, ce qui contraste avec son discours.
Ils n'arrêtent pas de mentir tout le temps, ça c'est les politiciens, ils disent jamais la vérité. Ils sont en mode, on fait ça pour les jeunes, ils font pas ça pour les jeunes, ils font ça pour eux.
Ces jeunes vont donc bloquer l'entrée du lycée Daudet dans le centre-ville de Nîmes très tôt, mercredi matin.
Inscrire ses enfants pour qu'ils pratiquent de l'équitation, du piano ou du football. C'est en ce moment la saison des choix d'activités extrascolaires et ça a un coût certain sur les petits budgets notamment. Eh bien hier à Chambéry, plus de 300 associations se sont rassemblées pour le traditionnel forum de rentrée des associations avec pas mal de questions de parents qui doivent justement se serrer la ceinture pour que leurs enfants puissent pratiquer une activité. Reportage ici Pays de Savoie, Emma Julie.
Des envies d'activité, les bouts de chou n'en manquent pas.
La capoeira, je vais faire de la poterie et peut-être de la boxe. J'ai besoin de me défouler aussi des fois. Le roller et le vélo.
Du choix, il y en a à Chambéry, du classique, judo, foot, danse et même du cheerleading ou de la musique celtique. Mais il faut pouvoir se l'offrir.
Sacré budget pour les familles.
Marie inscrit sa petite de 3 ans à son tout premier cours de danse.
Là, on est autour à peu près de 200-230 euros à ce que je vois. Et à chaque fois, je regarde, il y a des frais de dossier qui vont quand même jusqu'à 80 euros. Puis ça, il faut compter l'équipement du coup qu'on va devoir payer. Des petits collants, des chaussons, ce genre de choses.
Un peu moins cher, il y a les activités dans les associations de quartier type MJC.
Mais il y a très peu de place. Là, il y a déjà des assos, ils me disent on est complet depuis le mois de juin.
Difficile de contenter un petit. Pour Charlotte, c'est x3.
On jongle, c'est un peu chacun son tour dans la maison. Quand quelqu'un a une activité qui est un peu plus coûteuse, les autres vont chercher des activités plus accessibles.
Et coup dur, cette année, le passeport, c'est fini pour les 6-13 ans. Une aide de l'État qui était bien utile à Rekia et Mélissa.
Je suis un peu déçue par rapport au passeport qui aidait aussi beaucoup.
Ça donne 50 euros par enfant, sauf que cette année, on n'y a plus droit. C'est embêtant. Surtout quand on en a trois.
Cette année, l'aide a été augmentée à 70 euros, mais seulement pour les jeunes de 14 à 17 ans. Le ministère des Sports avance des raisons budgétaires.
Les sports, c'est la conséquence des blessures des deux footballeurs du PSG, Désiré Doué et Ousmane Dembélé, blessures contractées durant leur match vendredi soir en équipe de France contre l'Ukraine. Eh bien, ce matin, le Paris Saint-Germain, leur club d'origine, demande des comptes. Il demande à la mise en place d'un nouveau protocole de coordination médico-sportive, un protocole plus transparent, souhaite le PSG, qui réclame aussi une meilleure collaboration entre les clubs et l'équipe de France. Il faut dire qu'à cause de ces blessures, les deux joueurs parisiens seront absents de leur club pendant plusieurs semaines. Écoutez, Jérôme Alonso, il est ancien gardien de but du PSG, consultant foot pour France Info, et il estime que le staff de l'équipe de France a commis une immense faute, il l'a dit à Adrien Yambecht.
Pour Désiré Doué, je veux bien comprendre qu'il soit en pleine force de l'âge et qu'il soit vraiment pas de bol. Mais pour Ousmane Dembélé, c'est un scandale. Vous vous rendez compte qu'on parle quand même d'un garçon qui, toute sa carrière, a eu ce genre de pépin-là.
C'est ça.
On disait souvent blessé. C'est une promesse, mais voilà, il se blesse tout le temps. Ça veut dire que pour moi, l'immense faute et l'immense incompétence du staff médical des Bleus, et d'ailleurs du staff des Bleus tout court, c'est qu'on a affaire à un joueur qui était sur un terrain propice à ça. On parle d'un joueur qui a une fragilité musculaire historique, qui est arrivé blessé au rassemblement, qui s'est déjà blessé au mois de juin, et qui a fait une saison à 60 matchs. Ça veut dire que quand le courrier du PSG vous est adressé, vous devez en tenir compte, au moins en parler aux joueurs, au moins échanger.
Justement.
C'est pour ça que je comprends mille fois la colère du PSG.
Et puis un mot de rugby avec la Coupe du Monde féminine qui continue en Angleterre cet après-midi pour le 15 de France. Le 15 de France féminin va jouer son dernier match de poule face à l'Afrique du Sud. Ce sera à partir de 17h45. Le temps.
La météo avec les cafés Malongo.
torréfacteurs engagés depuis 30 ans dans le commerce équitable. Les petits producteurs font les grands cafés sur malongo.com.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Eh bien les températures sont encore élevées cet après-midi.
Oui, il y a même parfois 10 degrés au-dessus des normales de saison comme à Lille où on attend 31 degrés. Il en fera 32 à Montauban, 30 à Ajaccio, Marseille, Lyon ou Paris, 27 à Strasbourg ou Perpignan. La maximale, tiens, je ne l'ai pas donnée, 33 degrés du côté d'Agen cet
aujourd'hui.
Après-midi. Oui, oui. Pour avoir un petit peu moins chaud, c'est dans le nord-ouest qu'il faudra aller avec 20 à 25 degrés cet après-midi, 20 à Brest, 25 pour Nantes. Une baisse due à la perturbation qui est déjà passée par là ce matin.
Une perturbation qui se décale doucement vers l'est.
Oui, on la retrouve cet après-midi entre la Normandie et les Pyrénées. Le voile nuageux accompagné d'un risque d'ondée gagne doucement la pointe nord, le bassin parisien, la région centre jusqu'au midi Pyrénées où on aura des orages dans la soirée. Orages potentiellement forts avec de la grêle et du vent sur la région midi Pyrénées. Le ciel va rester couvert sur les côtes du Languedoc-Roussillon et plus à l'est en revanche, le soleil résiste encore et ce sera le cas toute l'après-midi.
Les prévisions de Céline Dacosta.